5 ans aujourd'hui que le méthaniseur de Gramat a vu le jour et aujourd'hui nous vivons dans une société qui se veut de plus en plus verte, où on parle d'énergie verte, de biocarburant, de traitement de déchets, de méthanisation. Mais qu'en est-il ? Est-ce que ces procédés sont si vertueux qu'on veut bien nous le dire ? Le documentaire réalisé par Hugo Clément et diffusé ce lundi 2 mai dernier nous apporte quelques réponses à ces questions. Bien qu'il ne traite pas tous les sujets en profondeur, il a le mérite d'informer le grand public des risques de ces énergies dites vertes sur notre planète et sur nos sociétés de plus en plus capitalistes. Le collectif Lotois Citoyen et la Confédération Paysanne du Lot se battent depuis de nombreuses années pour mettre en garde les méfaits de ces énergies. Alors qu'en est-il sur notre territoire du Lot et faut-il se méfier de ces énergies dites vertes? Nous allons en parler avec François, Philippe et Christian. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors vous organisez une réunion débat à ce sujet le vendredi 13 mai à 17h à Gramat pour parler de différentes de notre territoire et du méthaniseur de Gramat. On va aborder tout ça. Déjà, 5 ans, il s'en est passé des choses depuis 5 ans.
Moi, si je peux me permettre, d'abord, c'est à 18h.
Et c'est à 18h,
si
voilà,
les gens
pardon.
Veulent venir à 17h, on peut faire la fête en attendant.
D'accord, donc, c'est à 18h, pardon.
Le vendredi 13. Et sinon, alors, on doit parler du méthaniseur de Gramat, entre autres, parce que la méthanisation s'est quand même largement déployée sur le territoire du Lot. Et peut se déployer encore. Donc on veut faire un point sur, sur Gramat, sur où en sont les méthaniseurs du Ségala, et effectivement voir un peu les dérives. Voilà. On est quand même plusieurs à intervenir, dont l'association LAMI.
Espirou Environnement. Espirou, voilà. Et d'autres associations du côté de la Batude aussi.
Oui, le collectif des riverains du méthaniseur de Gramat, AIS Pérou Environnement.
Voilà.
Voilà. Déjà, c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a vu ce documentaire à la télé qui, j'espère en tout cas, a éveillé quelques consciences. Est-ce que bon, ça fait longtemps que vous militez pour...
En fait, on milite pour alerter sur les dérives de la méthanisation, parce que la méthanisation en soi, c'est quelque chose de vertueux. On récupère des déchets, normalement, hein, on récupère des déchets, on les valorise, parce qu'on ne traite rien avec la méthanisation, j'aime à le répéter, parce que souvent on nous dit « on peut traiter les déchets ». Non, on valorise les déchets et on produit de l'énergie avec. C'est juste génial. Sauf que comme dans toute démarche... il y a des effets pervers, c'est laissé de côté. Donc, il faut savoir quand même que dans un méthaniseur, il y a 90% des choses qui rentrent, qui ressortent de l'autre côté. Donc, ça veut dire que les déchets, ils sont toujours présents. Et quand on rentre un bœuf dans un méthaniseur, de l'autre côté, il sort un bœuf. Décarboné, j'en suis d'accord, mais il sort un bœuf. Donc, la vraie question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? Et c'est bien facile, on les épanse sur les terres agricoles. Donc selon ce qu'on rentre, ça peut poser problème. La nature des sols a son importance aussi. Et ici, on est particulièrement bien placé, puisque sol karstique, 15 cm de terre, ça pose quand même des problèmes. Et ça dépend de ce qu'on rentre, évidemment. Si on méthanise du fumier, c'est pas très grave de l'épandre derrière. Mais quand on commence à rentrer des déchets d'abattoir, ça pose problème. Et quand on rentre et quand on commence à cultiver pour créer des déchets, pour pouvoir produire de l'énergie, là, on est complètement en dérive. C'est-à-dire qu'on produit...
De la merde.
de la merde, je le conçois. Non, mais on produit surtout des matières premières qui devraient servir à nourrir les hommes ou les animaux pour faire de l'énergie. Problème.
Oui, excusez-moi, j'intervenais parce que bon, moi je suis ami de la conf, je suis ami de pas des méthaniseurs, mais de ceux qui se battent contre les méthaniseurs. Je suis avant tout faucheur volontaire et je me suis occupé de la campagne pipi glyphosate dans le Lot. Et moi je dirais que c'est pas. D'accord, c'est vertueux au niveau de l'idée de base, mais là c'est un écocide. Je veux dire, c'est hyper grave. C'est-à-dire qu'on remplace donc la paille par du lisier, ce qui veut dire élevage en bas. batterie, ce qui veut dire avec les tourteaux OGM qu'on n'a pas le droit de faire en France, mais on les fait venir par millions de tonnes. Enfin non, c'est un truc très grave, quoi, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on empoisonne déjà, la matière de base est déjà empoisonnée, parce que des fois, il y a des bouts d'épuration, il y a même des camions de sang qui ont été vus à Gramin, etc. Donc avec des agents pathogènes en plus qui ne sont même pas traités après, on va répartir ça sur le cause, comme dit Christian, karstique, c'est-à-dire c'est une éponge, au bout de quelques heures, ça y est, hop, ça va directement, alors je ne sais pas sur le cause, c'est la nappe phréatique ou les rivières souterraines.
Des rivières souterraines.
Voilà, donc c'est un écocide, quoi, c'est très grave ce qui se passe.
Par rapport à Gramin, il faut savoir qu'ils ont une dérogation pour ne pas stériliser tous les intrants qui rentrent. C'est-à-dire les déchets d'abattoir C2 et C3, C2 spécifiquement, parce que ce n'était pas rentable. En gros, voilà, la préfecture a accordé la dérogation au nom de la rentabilité de l'usine. Et en plus, c'est une grosse connerie, puisque l'usine n'est pas rentable. Alors pour encore aider le groupe Total, ils autorisent l'importation de gaz GNL pour faire marcher le cogénérateur. Donc en fait, ils produisent de l'énergie subventionnée en important du gaz liquéfié, donc du gaz qui est carboné. Donc c'est complètement dingue. Et la préfecture a accordé. La ministre Pompili est aussi au courant. Elle a été interpellée par des députés de Gironde, mais on n'a toujours pas de réponse non plus.
En ce qui concerne le méthaniseur de Gramin, l'énergie produite est de l'électricité, c'est ça ? C'est pas du gaz ?
Alors non, un méthaniseur produit toujours du gaz. Mm-hmm. Après, le gaz, soit il est injecté dans les réseaux de gaz, mais à Gramin, il n'y a pas de réseau de gaz. Donc, dans ces cas-là, il est transformé en électricité. Ce qui fait qu'il y a pas mal de pertes, mais je crois que c'est 60% hein, de pertes.
Ouais, à peu près le rendement d'un cogénérateur, c'est entre 32 et 38%.
Voilà, donc à peu près 60% de pertes. À Gramin, par contre, il récupère la chaleur pour chauffer les locaux, l'eau de la carcinoise, donc il y a moins de pertes, parce que la chaleur est récupérée, ce qui ne sera pas le cas des méthaniseurs du Ségala. Dans le Ségala, en fait, ils vont faire de l'électricité à partir du gaz sans récupérer la chaleur, donc rendement très faible, puisque 40% c'est quand même pas énorme. Et ça fonctionne, ça, enfin, grâce aux subventions, parce que les méthaniseurs sont subventionnés eux-mêmes à l'investissement, mais ensuite en fonctionnement, le prix de l'électricité rachetée à des méthaniseurs, c'est relativement énorme. Grammage. Je crois qu'ils ont un contrat avec EDF à 23 centimes le kilowatt, quoi. Alors que nous, on le paye 17 et que eux, sans doute, pour faire fonctionner leur truc, ils achètent du gaz, peut-être de l'électricité, à peut-être à 10 centimes. Ils ne sont pas du tout en autoconsommation, hein. Ça serait une aberration, quoi. Donc, ils injectent dans le réseau EDF et voilà.
D'accord. Pour revenir un petit peu au documentaire que l'on a vu à la télé, pour une fois qu'il y a quelque chose de qualité à la télé, il faut le souligner quand même. Ça fait flipper parce que, enfin, où on en est à Gramin ? Est-ce que c'est aussi compliqué et aussi tragique que ce qui se passe sur le reste du territoire, à savoir on a vu dans ce documentaire des déchets de plats cuisinés, de pizzas, de boîtes de sardines qui arrivent dans les méthaniseurs. Est-ce que ça peut en arriver là, ici ?
Sur Gramin même, a priori, par rapport à la liste des intrants de la préfecture, non. Sur Mérac, on sait qu'il y a des déchets d'agroalimentaire qui arrive, puisque dans les épandages de Gesta on retrouve du plastique. C'est-à-dire, moi, il y avait une réunion ce lundi avec la sous-préfecture de Gourdon, on n'a pas pu y aller, mais les derniers rapports montraient qu'il y avait du plastique dans les digestats. Donc ça ne vient pas du lisier ou des cochons, quoi. Donc,
oui, ça veut dire qu'il y a des intrants plastiques
quelque part, et qui sont mal triés. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès ? Je ne sais pas. Alors, la volonté, je crois que c'était de faire en sorte de mettre une membrane, pas pour empêcher le plastique, mais pour les rendre plus petits. Comme ça, on les voit moins. Et à un moment où on s'inquiète de la pollution de l'eau par les plastiques, on fait la même connerie avec les sols en France, quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est Cosside, Machiavel, c'est d'un cynisme horrible.
Alors, et il faut quand même savoir, ça c'est quand même un cri d'alerte que je lance depuis pas mal de temps, c'est qu'a priori d'ici 2025, les communes, les intercommunalités n'auront plus le droit d'incinérer les déchets ménagers. On peut regarder chacun ce qu'on peut mettre dans sa poubelle déchets ménagers qui ne va pas dans la poubelle recyclable. Et il y a à peu près de tout. Et ça, ça va partir. Alors, il y a des gros projets. À Lyon, il y avait un projet, je crois que c'était 600 000 tonnes par an, d'un méthaniseur pour traiter, entre guillemets, les déchets ménagers. Donc, ça, enfin, on marche sur la tête. Et effectivement, moi, je l'ai vu de mes yeux, un arrêté préfectoral, je ne sais plus de quel département, où il était demandé aux méthaniseurs de tailler tout petit le plastique pour pas qu'il se voit. François a tout à fait raison, c'est vrai. Donc ça pose quand même des problèmes. Enfin, Alors, tu posais la question des intrants par rapport au documentaire d'hier, mais nous, à Gramat, on est quand même pas mal lotis, parce que les intrants, c'est à 50% des déchets d'abattoir, qui effectivement devraient, pour pouvoir être méthanisés, être stérilisés, comme l'a dit François tout à l'heure, mais qui sous certaines conditions pourraient être seulement hygiénisés, ce qui n'est pas du tout le même traitement thermique. Mais certaines conditions, ça veut dire une méthode HACCP mise en place ou quelque chose. Là, rien. C'est juste l'argument, c'est de dire ça coûte trop cher, on ne veut pas. Donc c'est pas stérilisé, c'est hygiénisé simplement. Et donc ça, c'est 25% des intrants. Il y a 50% de lisier de canard. Donc on se demande bien comment ça va fonctionner, parce qu'avec la grippe aviaire en ce moment, normalement les éleveurs peuvent plus rentrer de canetons, donc ils vont plus pouvoir produire de lisier et ils vont plus pouvoir produire de carcasses. Les déchets d'abattoir, ça c'est aussi des déchets des abattoirs ovins, bovins de la région, hein, ça vient de 150 km autour. Et après il y a 25%, c'est des bouts de stations d'épuration des mêmes abattoirs. Tout ça, moi j'aimerais mieux qu'on méthanise des sardines en boîte périmées. Hein. Ça serait moins dangereux quand on épande sur les sols. Là aujourd'hui, c'est quand même problématique. Quoi. Voilà.
C'est une gabegie, donc de toute façon ces méthaniseurs, ça a déjà été lancé depuis plusieurs années. C'est quand même une gabegie donc d'un truc qui n'est pas rentable, puisque ça produit vraiment pas, et avec subventionné avec nos impôts, quoi, qui vont profiter une minorité. Alors bon, des fois il y a des affiliés de la FNSEA ou de la Chambre d'agriculture, bon, bizarrement, mais bon, ça c'est local. Mais ce qui est plus grave ici, la méthanisation dans le Lot, c'est-à-dire déjà les projets qui malheureusement se construisent et se terminent sur le Ségala, c'est que c'est le château d'eau du Lot. On parle de ça parce que c'est là énormément où on a toute l'eau potable qui arrive. À Cahors, déjà, ils n'arrivent même plus à en avoir toute l'année. Donc c'est quoi, quand je parle d'écocide, c'est vraiment sérieux, quoi. C'est-à-dire que ce président, il y en a eu d'autres avant, hein, qui repart là pour 5 ans, je veux dire, il continue, je veux dire, à empoisonner la population. Et c'est une non-assistance à la population en danger, parce que bon, dans le non-respect de la loi, dans le non-respect du droit au niveau de la loi constitutionnelle, c'est inscrit comme ça. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, défaut, en limiter les conséquences. Donc ça, c'est là-haut, là, hein, ça les concerne. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Voilà. Donc on a un président, un gouvernement qui est hors la loi, on le dit, mais c'est pas relayé.
Il faut savoir aussi que par rapport à ces écocides et pollutions, certaines préfectures vont même, après une pollution, demander à l'agriculteur d'évaluer lui-même la pollution. C'est ce qui s'est passé dans le Grand Est, juste 3 semaines après l'accident de Châteaulin qui avait fait un peu scandale en Bretagne. Et où Mme Pompili l'avait appelé incident dans l'émission de Cache Investigation. Trois semaines après, il y avait le même volume de digestat dans un autre endroit, dans l'Est. Et puis, le préfet demandait à l'agriculteur de voir lui-même si c'était pollué.
C'est comme la Cour européenne de justice qui est censée évaluer les pesticides. Il évalue sur quoi ? Sur des autocontrôles, des auto-études de Bayer, Monsanto et tous les autres. Donc voilà, on est dans le même marché de dupes.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents autour des méthaniseurs ? Alors, et comment on peut évaluer ça ?
Alors, il y a eu pas mal d'accidents jusqu'à fin 2021. C'est-à-dire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était plus de 280 accidents sur les méthaniseurs. C'était le collectif scientifique qui avait repris ça petit à petit. Et on utilisait aussi ce qui se passait dans la presse. Et c'est souvent le collectif scientifique qui ramenait l'information à l'ARIA pour l'accident. L'ARIA, c'est un organisme qui centralise les accidents industriels. Et ils n'étaient pas au courant. Donc c'est le collectif scientifique qui les informait. Et là, depuis le 1er janvier 2022, on n'a plus aucun accident sur la méthanisation.
C'est-à-dire plus aucun accident recensé, tu veux dire ?
Voilà, on ne sait pas du tout, on n'arrive plus du tout à voir les informations qu'on avait avant. Là, plus rien.
De toute façon, en dehors des accidents, il y a aussi le récurrent. Enfin, le méthane est 25 fois plus polluant que le CO2. Et s'il y a 3% de fuite de méthane, le bilan carbone est nul. C'est-à-dire qu'on pollue autant que du CO2, sans parler du reste du bilan carbone, évidemment. Et 3%, c'est rien. C'est quelques fuites à quelques joints qui fuient, des tuyauteries qui commencent à se percer. Alors bon, sur un méthaniseur comme Gramma, j'espère que ça ne se perce pas encore. Et puis, il y a aussi, parce que dans la fuite vers la rentabilité, le cycle de méthanisation qui est réduit au maximum pour pouvoir produire, être toujours en plateau de production. Donc un Gramma, par exemple, c'est 45 jours. Bon, 45 jours, au bout de 45 jours, les intrants sortent, mais le cycle de méthanisation n'est pas terminé. On sort des digestats qui continuent à produire du méthane. Donc on pollue, quoi. Il n'y a pas de problème.
Vous n'avez pas parlé aussi du côté olfactif, enfin bon, un petit détail comme ça, mais qui peut indisposer sérieusement les riverains.
Alors par rapport à l'olfactif, c'est un peu générique, parce qu'en fait, ça ramène beaucoup de gaz qui sont dangereux. On réagit, nous, par rapport à l'odeur et on est mal à l'aise. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans le gaz qui transporte les odeurs, quoi. Et il y a pas mal de conneries dedans. Et qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Mais qui sont négligées par les préfectures et puis par les industriels.
Le fait que ça soit du lisier, donc de l'élevage industriel, ça amène tout ça, quoi. Oui. C'est-à-dire que l'urine n'est pas... Moi, je ne connais pas techniquement, mais...
De toute façon, moi, je peux parler des analyses du méthaniseur de Gramma, parce qu'elles sont publiques et sur le site du méthaniseur de Gramma, elles sont mensuelles. C'est de l'autocontrôle, hein, soyons clairs. Sur le mois de janvier, on est à 77 unités, 80 unités d'azote pour 10 000 litres, et c'est 75 unités d'azote ammoniacal.
Ah voilà, c'est l'ammoniac, je trouvais plus
lourd. Donc
voilà.
Du coup, quand on...
La moyenne est à combien ?
La moyenne
de... la moyenne tolérée, enfin...
Ah, mais non, mais là, il n'y a pas de normes, donc c'est comme ça, c'est toléré. Et après, ça devrait interroger sur qu'est-ce qu'on fait de ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une volatilisation importante et rapide de l'ammoniac qui se transforme en NH4, et après, un lessivage très rapide aussi, parce que en plus, le rapport carbone, alors c'est un peu technique, le rapport entre le carbone et l'azote du digestat, évidemment, quand il n'y a plus de carbone, c'est essentiellement de l'azote, et ça, c'est quelque chose qui se lessive, mais directement. Les plantes, quand elles sont en besoin, elles en prennent un peu au passage, mais c'est juste, et alors l'azote ammoniacal,
Juste pour donner une image par rapport à ça, le professeur Kaemerer, qui était venu à Gramma en 2017, et qui a travaillé pour l'ADEME, pour les digestats, avait fait un document sur le C sur N et préconisait pour les sols karstiques du Lot un C sur N de 25. Là, il est de 1,6.
1,3. Ou 1,3. Sur le mois de janvier, 1,3.
Ouais. Donc voilà. Donc ça descend tout de suite, quoi.
Ça descend tout de suite.
Ah oui.
Justement, en parlant de sols karstiques, quels sont les risques pour nos sols à nous ?
C'est l'infiltration et c'est la descente directement sur les rivières souterraines.
Et empoisonnement faune-flore, de toute façon, oui, de la surface jusqu'en profondeur.
Ça, de toute façon, en surface, vu la concentration en ammoniac et le C-sur-N très faible, ça ne peut pas favoriser la vie microbienne, au contraire. Et par contre, alors oui, on a, en dehors de ce qui s'évapore, la grande majorité... Du digesta et les civets, parce qu'on a des sols qui ne sont pas filtrants. Donc quand on a 15 cm de terre, mélangé avec des cailloux en plus, ça passe vite à travers. Donc dès qu'il pleut, c'est les civets, sinon c'est évaporé, et les plantes en récupèrent une partie. Alors ce qu'il y a d'aberrant, c'est que quand même, les entrepreneurs, pour se débarrasser du digesta, parce qu'ils en produisent tous les jours quand même, donc il faut bien s'en débarrasser régulièrement, eh ben, ils incitent les agriculteurs à en mettre sur des terres nues, labourées, où ça peut servir strictement à rien, quoi. Voilà.
Si, à empoisonner.
Non, à se débarrasser d'un déchet. Parce qu'il ne faut pas oublier que le digesta, c'est un déchet, en particulier celui de Graba, et que du coup, il faut s'en débarrasser.
Il faut savoir aussi qu'on essaye de faire avoir l'essai. Ça ne bouge pas beaucoup, mais on a essayé plusieurs fois de passer les résultats qui ont été pris, les décisions qui ont été prises dans le Doubs, où là, dans le Doubs sol karstique, ils disent les sols inférieurs à 20 cm de terre, on n'épand pas de lisier liquide, enfin, tout ce qui est liquide.
De digesta.
De digesta ou de lisier. 20 cm. Le COS
15.
Normalement, on ne devrait pas y avoir d'épandage. Il faut se rappeler que le début du projet en 2012... Il ne devait pas y avoir d'épandage, les digestats devaient partir dans les stations d'épuration de la ville de Figeac et d'autres communes. Hein. Ce n'était pas prévu à l'épandage. Hein. Et après, il suffit juste de prendre des arrêtés ou des décrets. Avant, le digestat était un déchet, en général, et maintenant, c'est devenu un produit. Juste par arrêté, ça ne change pas sa composition, mais juste par arrêté. Je ne parle pas des spécificités du lot avec les déchets d'abattoir. Hein.
Ouais, parce que ça ne peut être qu'un déchet. Voilà. Ça peut pas être,
Mais en général, c'est un produit, donc il n'y a plus besoin de contrôle ni quoi que ce soit.
Ce qui veut dire, ce n'est plus considéré comme un déchet mais un produit, ça veut dire que ça se monnaie? Ça peut se monnayer?
Il y en a qui vendent, oui. Alors, sur le lot, je pense pas qu'il y a encore une spéculation sur ça, mais dans certains départements, oui, ils peuvent vendre ça comme un produit.
Alors, moi, je dirais que sur le lot, alors pour ce qui concerne Gramas, ce n'est pas possible parce que quand il y a à Comintran des déchets d'abattoir et des bouts de station d'épuration, ça ne peut pas être considéré comme un produit. C'est interdit. Il suffit de changer les règles et ça passera. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. Après, sur les méthaniseurs du Ségala, ils vont pas pouvoir le faire non plus parce que c'est un système coopératif. Donc, c'est des éleveurs qui ont investi dans les méthaniseurs qui vont amener leurs déchets, soit du fumier, soit du lisier, enfin en majorité du lisier, et qui vont récupérer des kilos d'azote, équivalent à ce qu'ils auront amené, puisque là, on rentre un kilo d'azote, il sort un kilo d'azote hein, avec les méthaniseurs. Bon voilà, donc en fait ils vont utiliser ça pour fertiliser leur sol. Ils s'apercevront vite qu'il y a un problème, surtout ceux qui vont amener du fumier, hein, parce que quand on amène du fumier et du carbone et qu'on récupère quelque chose de décarboné et d'azote ammoniacal, ça peut poser un problème au niveau agronomique.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du méthaniseur de Gramma, il y en a d'autres, il y a ceux de la Batude. Combien il y a de méthaniseurs ici sur le département aujourd'hui?
Alors il y a les 4 en construction sur le Ségala, enfin en construction ou fonctionnel sur le Ségala. Il y a Mérac, Gramma, Loubressac, il y en avait un, je ne sais pas où il en est, la laiterie. Il y en a un autre dans une petite commune, mais qui est à la ferme aussi, qui ne fait pas de bruit. Et il y a tout ce qui est prévu.
C'est Andros aussi.
Oui, Andros. Ouais. Et en fait, après, il y en a qui sont prévus. Sur le Grand Figeac, par exemple, on sait qu'il y a une évaluation qui a été faite par le bureau d'études Solagro. On ne sait pas ce qu'il en est ressorti, on sait juste qu'il y a eu l'étude. On sait que sur Coval d'Or, il y a eu une étude, et là c'est public, avec les volumes d'intrants méthanogènes. Là c'est public sur leur site, sur le Grand Figeac on ne trouve rien pour l'instant. Peut-être une volonté de passer ça encore en 12 comme les autres, quoi, je ne sais pas. À voir avec les dirigeants du Grand Figeac.
Et celui de la Fragette à Viazac, là, il est
fonctionnel.
qui est fonctionnel. Mmh. Ah bah, c'est bien.
Moi, j'ai une question. Justement, tous ces projets de méthaniseurs sont à la ferme, on va dire. Ce ne sont pas des fermes qui sont en bio. On est bien d'accord que ce sont des fermes qui utilisent...
Des fermes de Figeac. Entre autres. Fragette, je ne crois pas qu'ils soient en bio. Il est FNSEA, enfin son frère, enfin bon, de toute façon.
Voilà. Mais est-ce que si on imagine un méthaniseur sur une ferme bio avec des intrants qui sont non pollués par des pesticides, non pollués par des antibiotiques, est-ce qu'on peut imaginer une méthanisation réellement verte ?
Le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, c'est que les déchets qu'on va rentrer dedans, alors ça sera mieux et ça sera moins dangereux évidemment, dépendre les digestats issus de ce genre de méthaniseur, mais le problème c'est qu'on pique le carbone, et le carbone qui ne retourne pas au sol, c'est problématique. Les plantes ont besoin de carbone pour vivre. Le sol et la flore du sol a besoin de carbone pour vivre. Donc la décarbonation, ça pose un problème quand même. Alors s'il y a des sources, s'il y a d'autres sources, ou si tous les déchets d'exploitation ne sont pas utilisés, et que par exemple l'agriculteur garde du fumier pour pouvoir épandre en alternance avec... Oui, ça peut être pas mal, bien sûr. C'est parce qu'en tout cas, il y a moins de risques de pollution du souterrain, de l'eau et tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas effectivement de pesticides, d'antibiotiques, de bactéries diverses et variées, comme on peut trouver dans les déchets d'abattoir. Parce que c'est bien le problème sur les déchets d'abattoir. Les déchets d'abattoir, il faut quand même savoir que normalement, il est interdit de les épandre. Mais il suffit qu'ils prennent une virginité en passant par un méthaniseur pour pouvoir être épandu après. C'est juste affolant, c'est dingue. Quoi.
Combien d'autres méthaniseurs en projet, François ?
Alors, on n'a pas de chiffre exact. On avait évalué sur le Grand Figeac, c'était évalué à une vingtaine, mais on n'a jamais eu la réponse des dirigeants du Grand Figeac par rapport à ça.
Ouais. Alors, je te corrige un petit peu, parce qu'en fait, ils avaient étudié les besoins en énergie pour être territoire à énergie positive. Mmh. Et ils avaient pris des catégories en disant, bon, si on fait des méthaniseurs, il en faudra tant. Si on fait de l'énergie bois, il faudra tant de tonnes, tant de milliers de tonnes de bois, etc. Mmh. Mais bon, voilà, donc c'était pas... Enfin, évidemment, le projet final, ça pouvait pas être... tous les méthaniseurs dont il parlait. Ça allait être un mix entre le bois et les méthaniseurs, mais ça restait quand même conséquent. Quoi. Voilà. Mmh. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on trouve encore des déchets pour mettre dans les méthaniseurs, mais si la méthanisation se développe, il va y avoir la guerre sur le marché des déchets. Parce qu'il faut les remplir,
On en fera des beaux sites pour cacher tout ça, pour ne pas savoir où c'est.
Ça a déjà commencé, la guerre des déchets en Dordogne. Il y a un agriculteur qui nous a téléphoné en disant qu'il était emmerdé parce qu'il achetait des déchets du petit lait d'une laiterie et que le méthaniseur industriel qui était en train de se construire payait plus cher les déchets, donc lui se retrouvait sans déchets. Dans le nord, dans le Hauts-de-France, la guerre est déclarée. C'est-à-dire que les prix montent et spéculent sur les déchets.
On l'a bien vu dans le documentaire, justement, où on fait venir des déchets de l'autre côté de la planète pour pouvoir...
Alors ça bousille les routes, en plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. C'est toujours nos impôts, de toute façon. Hein, ça revient toujours au même. Et quand même, dans le Lot, on n'arrivera pas à arrêter, de toute façon, ce projet industriel de méthanisation... qui, au départ, est une belle idée quand c'est dans des petites fermes en Inde, etc. Bon, ça reste un projet industriel. Il y en a trop, là, qui prennent de l'argent. Mais ce qu'il faudrait arriver, c'est à faire un ultimatum. Par contre, arrêter ces autocontrôles et qu'on puisse obliger les autorités, l'emmerdeur local, puisque notre président, l'emmerdeur national, a décrété qu'on était des emmerdeurs, souvent. Eh ben, l'emmerdeur local, il devrait faire veiller à ce que soient respectés des contrôles et qu'on arrête les autocontrôles. Tout ça, c'est de la foutaise, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ils arrivent à avoir un peu de temps en temps conscience de tout ce qu'on leur fait avaler, et c'est le cas de le dire, quoi, tout ce qu'on les empoisonne. Mais là, il faut absolument un ultimatum pour qu'il y ait des contrôles et pas des autocontrôles.
Alors justement, voilà. En parlant de contrôle, il y a quand même un observatoire qui s'est créé.
Non.
Alors, on en est où de cet observatoire,
justement ?
Qui a été constitué.
L'observatoire a été décidé, enfin proposé par les inspecteurs du CGEDD dans leur enquête qu'ils avaient faite en 2019. Et depuis, on attend. Alors, il y a eu des groupes de travail créés, mais ces groupes de travail ne se sont jamais réunis. Et on attend les financements. Alors, à un moment, les méthaniers devaient participer au financement de cet observatoire. A priori, ça a été mis de côté, cette proposition-là. Et il semblerait, selon la préfecture, que le financement serait là. Donc, il serait là. Pour l'instant, on attend...
C'est pas des gens fiables, tu sais, la préfecture.
On attend la première réunion de ce...
De cet observatoire qui serait présidé, alors, régulé...
C'est co-présidé par le parc et la préfecture. Alors, le parc, je ne sais pas où ils en sont. Ils sont en train de chercher des trucs spécifiques, mais ça coûte très cher pour essayer de trouver un marqueur sur le digesta et pour faire la différence avec les lisiers. Je ne sais pas où ça en est, si ça a été commencé ou pas. Mais par rapport à ça, tellement ça n'avance pas dans le Lot, la Bretagne a pris des décisions de faire des enquêtes avec des laboratoires privés. Et alors je pense que c'est la préfecture, enfin c'est pas la vraie, il y a un organisme scientifique qui est consulté au niveau de la préfecture de région sur les projets qui pourraient avoir un impact sur l'environnement.
Et dans quelle région ?
Occitanie.
Ouais.
Et en fait... Ils sont toujours saisis pour les projets d'éolien ou de photovoltaïque, mais pas sur la méthanisation. Donc là, ils se sont auto-saisis du problème. Je pourrais avoir plus d'informations parce que je n'ai pas amené les papiers avec moi, mais voilà, ils sont... Et c'est arrivé au niveau national parce que c'est un organisme dans chaque préfecture de région. Alors après, je ne sais pas si ça...
Ce qui veut dire qu'au niveau national, il n'y a quand même pas d'observatoire national sur... Sur les méfaits de la méthanisation et sur les méfaits même des énergies vertes plus largement.
Non, parce que même l'ADEME qui préconise ce genre d'énergie disait en 2018 on ne connaît pas l'impact du retour au sol du digesta. Mais on finance et on y va, quoi, en gros. Quoi. Ils ont des directives. Ils ne connaissent pas l'impact des fuites de méthane, mais ils autorisent entre 0 et 10%. Comme disait Christian tout à l'heure, pour 3%, bilan carbone nul. Ce qui est bizarre, c'est que tous les pays limitrophes ont fait des études sur les fuites de méthane. Ils sont à 6 en Angleterre, à 8 en Allemagne, etc. En Italie aussi. En France, il n'y a pas. Enfin, on n'a pas accès. Oui, ça existe peut-être, mais nous, on n'a pas accès. En gros, quoi.
D'accord. J'imagine que vous allez parler de tout ça le vendredi 13 mai à 18h, je le rappelle, à Gramma. Une réunion de débat, c'est-à-dire que un peu tout le monde va pouvoir prendre la parole. Comment ça va se passer ?
Bah, il va y avoir des présentations donc, faites un peu par tous les organisateurs. Et puis, s'il y a des questions, on sera très content d'y répondre. Il va absolument falloir qu'on trouve quelqu'un qui gère le temps, qui gère la parole, qui donne la parole, parce que ça ne peut pas être la foire d'empoigne. Mais bon, voilà.
Ça va se passer à la salle de l'horloge, théoriquement, en termes de temporalité, ça devrait bien se passer.
Voilà, c'est ça.
moi, je voudrais rajouter un truc sur le métal. On nous dit que tout va bien et autres. Il faut savoir que pour produire un mètre cube de méthane à injecter dans le réseau, il faut 1,6 mètre cube de gaz agricole. Je dis bien gaz agricole, je n'appelle pas le bio, machin, ou tout ce que tu veux, quoi. Donc, il faut 1,6. Et les 6 qui restent, là, sont brûlés. C'est du carbone qui part déjà. Donc, on raccourcit le carbone.
Le cycle du carbone.
Le cycle du carbone. Et voilà, ça, ils ne le disent pas. Mais c'est de fait, à l'épuration, il y a 0,6 qui partent en polluer directement l'atmosphère.
Bon.
S'ils ne sont pas d'accord avec nous, qu'ils nous appellent et pour qu'on ait un débat contradictoire, parce que le gouvernement ne veut pas, l'ADEME ne veut pas, Total ne veut pas, Engie ne veut pas, ou ne répond pas.
Mais ils seront à la salle de l'horloge le 13 à 18h pour porter la contradiction.
Il faut un contrôle de l'air.
En tout cas, on l'espère.
Il faut le contrôle de l'air.
On espère que les élus aussi vont venir et qui vont
écouter
et prendre connaissance de tout ça.
C'est public.
C'est public.
Oui, oui. Vendredi 13 à Gramat.
Vendredi 13.
On peut pas. 18h à la salle de l'horloge.
Vendredi 13, ça porte chance.
Un autre point où on entend le gouvernement, la FNSEA, Total, dire qu'ils veulent compenser l'importation du gaz russe dû à la guerre en Ukraine. Il faut savoir que les 85 terawattheures qu'on importe de Russie, ça correspondrait entre 6 et 10 départements que de cultures dédiées aux méthaniseurs. Sans ville, sans montagne, sans rivière, en surface. Hein. On attend toujours qu'on nous contredise sur ce sujet-là aussi.
Eh bien, de quoi réfléchir, ça nous laisse de quoi réfléchir quand même à notre société, comment on la veut. Hein.
Voilà, et puis alerter tous les proches, parlez-en, quoi. Il faut communiquer tout ça. Voilà.
Merci beaucoup.
Eh bien, écoute, merci à toi de nous avoir reçus.
À très bientôt.
Ciao.